Le grand jury RTL Le Figaro LCI, invité ce soir Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, nous sommes heureux de vous accueillir dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle saison du Grand Jury. Nous vous sommes très reconnaissants d'être fidèles à cette émission et RTL pour sa part bien sûr, et fidèles aussi au Grand Jury, une émission qui a une histoire et un avenir. Comme les saisons précédentes, le Grand Jury est produit en partenariat avec Le Figaro, dont le directeur est avec nous. Bonjour Étienne Moujotte. Et aussi avec LCI, la chaîne Info, pour la première fois, Eric Revel, vous en êtes le directeur, directeur de la rédaction de LCI, vous participez au Grand Jury, nous sommes heureux de vous accueillir. On dira à tous les fidèles du Grand Jury que Pierre-Luc Séguillon, qui a pour sa part animé beaucoup de grands jurys, alternera avec vous au gré des dimanches et au gré des invités. Cette semaine donc, notre premier invité, c'est un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin. Bonsoir Dominique de Villepin.
Bonsoir Monsieur Apathy.
Vous écrivez un livre, encore un, dirait-on, sur Napoléon. Vous racontez la chute, les dernières années de Napoléon Ier. Vous avez eu un long commerce intellectuel, historique avec Napoléon. On ne sait pas exactement ce qui vous fascine chez le personnage, mais est-ce que vous êtes nostalgique de la grandeur de la France, la grandeur de l'Empire ? Il y a de la nostalgie dans votre attitude ?
Non, il n'y a aucune nostalgie. Il y a la conviction qu'il y a une grandeur de la France, qu'il y a une mission. Non, il y a.
Elle est moins grande aujourd'hui qu'elle ne l'était
hier. Bien sûr, mais il y a une mission, il y a un rôle, il y a un rayonnement, il y a des devoirs de la France. Et j'y suis pour ma part profondément attaché, d'où l'importance de revisiter cette période qui a à la fois du bon et du mauvais. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que à travers les différents moments de l'histoire impériale, gloire ou chute, il y a un homme qui relève des défis, qui se change, qui se métamorphose et qui poursuit un rêve. Il se trouve que ce rêve ne se réalisera pas.
Donc parler d'hier, c'est aussi parler d'aujourd'hui sans doute. C'est un livre, je ne l'ai pas dit, qui est édité chez Perrin, Eric Revel.
Oui, Dominique de Villepin, on se souvient des 100 jours ou de l'esprit du sacrifice, hein, c'était juste avant, on était en 2001, on avait regardé dans la préface les petites phrases qui pouvaient nous éclairer sur votre conception du pouvoir à l'époque, et puis là, on cherche en vain, au-delà de du bel exercice de style, à la gloire de l'épopée napoléonienne, ce qui pourrait nous éclairer sur votre état d'esprit actuel politique. Et alors, j'ai lu avec gourmandise le portrait croisé que vous faites de Fouché et de Talleyrand. Fouché et Talleyrand, l'aristocrate et le jacobin, et on se dit, tiens, est-ce que Dominique de Villepin n'a toujours pas réglé ses comptes avec Nicolas Sarkozy? Parce que vous y allez fort, évidemment, sur ce couple historique célèbre autour de Napoléon.
Si vous aviez bien cherché, Éric Revel, je reconnais que le livre est une somme, plus de 500 pages, vous auriez trouvé un fil directeur qui vous dit mon état d'esprit aujourd'hui. Ce thème qui domine l'ensemble de l'ouvrage, c'est le thème du rassemblement et de la réconciliation. C'est en effet, je crois, ce qu'il y a de plus important dans la quête historique de la France. C'est ce qui nous a toujours fait défaut, c'est la difficulté de trouver un consensus, c'est d'être confronté à une révolution française qui n'est toujours pas terminée. Et je crois que dans les grands moments de notre histoire, dans les moments difficiles, il faut savoir se retrouver, il faut savoir se rassembler. Alors, vous me demandez mon état d'esprit vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que nous nous connaissons depuis longtemps, nous avons fait beaucoup de choses ensemble, nous avons travaillé dans le même gouvernement. Je crois qu'on peut dire... Et je peux dire que nous avons de l'estime l'un pour l'autre. Alors nous avons connu des péripéties, l'affaire Clear Stream notamment, qui n'est pas une affaire simple. Je crois que tout a été dit sur ce dossier.
Peut-être pas. Peut-être pas.
Enfin, tout a été dit. J'estime pour ma part avoir tout dit. Je crois qu'il apparaît clairement que je n'ai pas de rôle dans cette affaire, mais je laisse à la justice le soin de dire cela. Ce
n'est pas
à moi.
Vous avez le sentiment que vous m'allez vers un non-lieu ?
Je n'ai aucun sentiment. J'ai la conviction de n'avoir aucune responsabilité dans cette affaire. Pour le reste, il appartient à la justice de le dire. Mais je crois qu'il y a, au-delà de tout ça, la nécessité, quand les choses sont difficiles, et personne ne contestera que dans la situation de la France, crise conjoncturelle, mais aussi crise structurelle dans la mondialisation, il y a des défis d'une telle importance à relever qu'il faut se retrouver, se rassembler et s'engager dans la recherche de démarches constructives. C'est mon état d'esprit et je crois pouvoir dire que c'est aussi l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy. Nous nous sommes revus au mois de juin pour parler de l'Europe, pour parler de la situation du monde. Il m'a confié une mission qui m'a touché, qui était de représenter la France aux obsèques de Mahmoud Darwish, il y a quelques semaines à Jérusalem, le grand poète palestinien. Donc voilà l'état d'esprit, un état d'esprit de sérénité et je crois pouvoir dire aussi un état d'esprit apaisé.
Étienne Moujotte.
Vous êtes devenu avocat.
Vous êtes international.
avec un cadre national. Vous êtes un auteur à succès, un historien reconnu comme étant un grand spécialiste de Napoléon. Vous aimez la poésie au point de quelquefois lire des poèmes en public. Qu'est-ce qui pourrait vous faire revenir dans l'action politique, vous qui avez tant de cordes à votre arc?
Vous avez raison de dire que je suis, pour ma part, un homme comblé et j'ai la chance d'avoir, par ailleurs, pendant de très longues années, fait ce que j'aimais dans la politique. Il ne reste pas moins que mon engagement public reste un engagement fort, ma préoccupation pour la chose publique reste entière.
Et vous n'êtes pas un retraité de la politique.
Je ne suis certainement pas un retraité de la politique, en tout cas pas un retraité du débat public. Je crois que plus que jamais, la France a besoin du concours de tous ceux qui ont quelque chose à apporter, de tous ceux qui ont une expérience à partager, et tout ce qui se passe en matière nationale, internationale, économique, sociale, me concerne.
Mais il faut avoir une légitimité pour s'exprimer dans le débat public.
Oui.
Alors vous avez la légitimité de l'action que vous avez menée, mais ceci s'érode vite. Est-ce que vous chercherez rapidement une autre légitimité ?
Une chose importante sur le plan historique, toutes les légitimités s'érodent vite, même celle de l'élection. Et la légitimité, c'est la conviction et c'est la mission. Et c'est ce qui m'a toujours guidé. J'ai toujours été guidé par le souci d'apporter le meilleur de ce que je pouvais apporter mon pays.
Vous dites de Napoléon, justement, la légitimité, c'est d'abord la conscience qu'un homme a de sa différence.
Oui, c'est la conscience de la mission qu'on a apportée historiquement. Bien avant qu'il y ait des élections en France, et pendant de longs siècles, il n'y en a pas eu, il y avait pourtant des hommes qui avaient une légitimité. C'est donc qu'il y a différentes formes de légitimité. Et la légitimité, c'est l'idéal que vous portez en vous-même, c'est l'idéal qui vous fait accepter de prendre des risques, accepter de prendre des coups, accepter de vous battre pour une cause qui est plus grande que vous. Alors, vous me posez la question, est-ce que je pourrais accepter ? Certes, je n'ai pas connu l'élection, tout simplement parce que mon parcours politique ne m'y a pas conduit.
Mais Dominique de Villepin, est-ce que
par exemple... proposé des postes, on m'a confié des missions, je les ai assumées, je suis aujourd'hui dans une autre expérience, j'aurais pu assez facilement, même si on peut préjuger d'une élection. J'aurais pu, au lendemain de mon passage à Matignon, faire comme beaucoup d'autres et choisir de devenir député, choisir de devenir un élu. Je n'ai pas voulu le faire à ce moment-là pour une raison simple. C'est que j'ai ressenti le besoin d'une autre expérience, de me confronter à quelque chose d'autre, peut-être quelque chose de plus rugueux, et qui est une expérience professionnelle, et repartir à zéro. Aujourd'hui, j'ai créé une société, je repars à zéro, et je dois dire que ce que je vois est passionnant. Et je pense que les hommes politiques ont aussi à connaître ces difficultés du quotidien, ces difficultés réelles. Il est évident que la perspective et le regard que je porte sur l'économie, la difficulté d'entreprendre encore dans certains cas, malheureusement, dans notre pays, ce sont des choses que j'apprends sur le terrain. Donc j'estime qu'il y a un enrichissement, à prendre racine, à toucher du doigt une autre légitimité. Le chef d'entreprise a une légitimité à mener le combat qui est le sien. C'est l'expérience que je fais aujourd'hui, mais les circonstances de la vie peuvent faire.
Vous êtes prêt pour l'élection maintenant, Dominique?
Les circonstances de la vie peuvent faire
les élections
qu'il en aille autrement.
Les élections européennes.
Alors, je ne brigue, je vous le dis tout de suite, je ne brigue aucun poste. Il a été indiqué que je pourrais postuler pour les élections européennes. Je dois dire que mon état d'esprit aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'apporter une contribution à la réflexion et à la stratégie à définir pour permettre à notre pays de sortir de la crise. Et j'aimerais insister là-dessus. Jamais peut-être, au cours des dernières décennies, la France n'a eu à relever un tel défi. Nous sommes dans une de ces grandes césures historiques, comme il y en a peu.
On
comme...
le dit déjà 10 fois, ça, vous savez.
Oui, mais je vous le dis.
Je veux dire, au début des années 90, crise, on est au devant des grands défis.
Mais Jean-Michel
Apathy, on vous le dit. C'est chaque fois vrai, au fond.
Oui, mais il y a une différence.
Et c'est banal.
Non, c'est pas banal. Parce que ce que ressentent les Français, Monsieur Apathy, l'anxiété qu'ils ressentent, ils ne la ressentaient pas il y a 10 ans. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise conjoncturelle, d'où le débat aujourd'hui, y a-t-il ou n'y a-t-il pas récession? Mais nous sommes confrontés à beaucoup plus grave que ça. Parce que peut-être qu'effectivement, dans 6 mois, dans 8 mois, notre taux de croissance reprendra des couleurs, notre consommation repartira, l'investissement ira mieux. Mais nous sommes confrontés aussi à une crise structurelle. Et je voudrais qu'on se convainque en France que c'est la priorité. Parce que si on ne s'attaque pas
à régler cette crise structurelle dans la mondialisation, qui est de définir le rôle de notre pays, de donner des atouts à notre pays, tout simplement pour que l'anxiété des Français, parce que les Français confusément le ressentent, anxiété sur leur retraite, anxiété sur leur système de santé, anxiété sur l'éducation, ils ressentent que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Les choses ont changé. Et elles n'ont pas changé comme elles ont pu changer il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est tout un monde qui bascule. Pourquoi ? Parce que nous passons de 500 ans de domination occidentale. Vous voyez que c'est pas il y a 10 ans ou 15 ans, monsieur Patti. Et l'erreur, c'est de confondre parfois les paramètres et les repères. Nous passons de 500 ans de domination occidentale à une situation de dépendance de nos pays par rapport au reste du monde. Aujourd'hui, la moitié de la richesse mondiale est dans la main des pays émergents du Sud. L'essentiel des liquidités du monde, des capacités financières du monde, est dans d'autres mains que les nôtres. Nous avons donc à prendre la mesure de tout ça pour voir comment la France peut gagner.
Et nous avons des atouts formidables. Réformes structurelles. Vous parlez de réformes structurelles, puis ensuite on parlera de la situation économique de la France en ce moment et du contexte international. Alors j'ai regardé entre 2005 et 2007, là où vous étiez aux affaires, vous avez bénéficié d'une croissance, je crois, aux environs de 2%, et la dette publique, elle, a continué de croître en milliards d'euros constants, comme disent les spécialistes. Donc la réforme structurelle, on en parle quand on est plus aux affaires.
Éric Revel, je crois qu'il faut essayer de ne pas mésinterpréter les chiffres. Tout le monde sait qu'entre 2005 et 2007, c'est là que nous avons mis sur la table la question de la réduction des déficits. J'ai organisé les deux tables rondes avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec les responsables de l'État, les responsables des collectivités territoriales, pour mettre au cœur de nos préoccupations cette réduction
de
la dette.
C'est la prise de conscience.
Non, c'est la prise de conscience et c'est le début du retournement dans la gestion de la dette. C'est là où nous avons commencé véritablement à faire cet effort. Alors vous savez, la dette, elle croît mécaniquement. Donc, c'est vrai que pour passer de la dette actuelle à une dette qui commencerait à baisser, il faut un effort colossal, tout simplement parce que les intérêts de la dette sont cumulatifs. Ouais. Néanmoins, le premier effort qui a été engagé dans ce domaine l'a été fait avec Thierry Breton et Jean-François Copé, qui ont fait un travail remarquable dans ce domaine.
Alors, pour essayer d'être concret, d'aller dans votre sens, est-ce qu'il faut, selon vous, accélérer cette revue générale des politiques publiques qui vise à baisser les charges, les dépenses, et à le faire de manière drastique? Par exemple, ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, est-ce bien? Est-ce suffisant? Faut-il faire plus?
Alors, faut-il poursuivre et intensifier les réformes structurelles? Oui. Le dilemme auquel nous sommes confrontés, qui est un dilemme classique dans la gestion du pouvoir, c'est de faire prendre conscience à chacun de l'importance de ces réformes, et je pense qu'il faut aller plus loin. Nicolas Sarkozy, de ce point de vue-là, a engagé un processus de réforme. Il faut aller plus loin. Et il faut faire en sorte aussi que les Français comprennent mieux pourquoi et touchent les dividendes de cette réforme. Et c'est là toute la difficulté. Beaucoup de Français ont le sentiment qu'il faut faire toujours, et c'est vrai depuis des années, toujours plus d'efforts. Mais non, le sentiment aussi de ne jamais voir les contreparties de ces efforts. Et je pense qu'il est temps d'organiser ce contrat français, ce pacte français, qui permettra à chacun de comprendre où on va et jusqu'où les réformes sont nécessaires, et d'obtenir les garanties qu'ils attendent pour répondre à l'anxiété qui est la leur. Par exemple, est-ce que leurs retraites seront payées? Par exemple, est-ce que notre système de santé va s'effilocher? Ou est-ce qu'au contraire, nous aurons des garanties d'accéder gratuitement à l'hôpital durablement, la garantie que nous pourrons accéder à un médecin, quelle que soit la zone, y compris dans les campagnes? Je crois que ces questions, elles méritent d'être posées. Il y a, à mon sens, trois chapitres qui constituent la réforme structurelle lourde. Le premier chapitre, c'est celui de la compétitivité. Nous avons tous compris qu'il faut améliorer, comme on essaye de le faire aux Jeux Olympiques, améliorer notre rang et notre place dans le monde par rapport à des pays qui sont de plus en plus énergétiques, de plus en plus compétitifs. Pour le faire...
Donc il faut baisser les charges des entreprises.
Alors, il faut baisser les charges dans l'entreprise.
Ça, c'est le chef d'entreprise Dominique de Villepin.
C'est ce que nous avons commencé à faire. Je pense qu'il faut effectivement aller plus loin. Je prends un exemple, la protection sociale. Aujourd'hui, la protection sociale est en grande partie financée par les cotisations patronales jusqu'à 40% du salaire. Est-ce que nos entreprises peuvent supporter ce coût, sachant que cela pèse sur l'emploi? Quand vous engagez un salarié, ben vous vous posez la question, est-ce que je vais m'engager pour 40% du coût salarial? Cela pèse sur le pouvoir d'achat, parce qu'évidemment, quand vous devez augmenter un salarié, vous êtes un peu réticent quand il faut payer en plus cette cotisation. Et cela ne manque pas de peser aussi pour la sécurité sociale qui pèse, qui connaît des aléas dans les périodes de croissance et les périodes de décroissance. Donc je pense qu'il faut modifier notre financement de la protection sociale. Par exemple, en créant une taxe sur le capital, mais en tout état de cause, taxer aujourd'hui la compétitivité des entreprises...
Une taxe de plus.
Mais vous savez, non, il s'agit de substituer à une taxe, une autre taxe, mais qui nuira moins à la compétitivité de nos entreprises. Donc là, c'est une exigence de justice. Je pars du principe...
Sans exposer un programme, parce que là...
Non, mais il ne s'agit pas d'exposer un programme, il s'agit de montrer du doigt à quel point il faut aller loin dans la réforme.
Le président et le gouvernement partent un peu de l'idée qui est la vôtre, que le monde est en grand chambardement, et disent-ils... Si leur communication vous convainc-elle, disent-ils, des réformes de structure, nous en opérons, jamais aucun gouvernement, nous est-il dit, n'a autant réformé que le nôtre, nous en opérons depuis un an, et quand les choses iront un peu mieux, peut-être en 2010, eh bien la France sera en état de rebondir. Êtes-vous convaincu par ce discours, Dominique de Villepin ?
Alors, je suis convaincu par le discours qui consiste à dire, les réformes structurelles sont essentielles.
On est tous d'accord, mais celles qui sont faites, elles sont bonnes, mais elles suffisent ou pas ?
Alors, elles ne suffisent pas. Il faut aller plus loin, et je pense qu'il faut aller jusqu'au point où la réforme donne des résultats à la mesure des enjeux de la mondialisation. Rien ne serait pire que d'engager des réformes pour constater qu'elles ne sont pas suffisantes et que dans l'urgence, il faut engager de nouveaux paquets. Je prends l'exemple des retraites. Les Français sont anxieux sur leurs retraites. Il est évident qu'il faut pousser plus loin la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à retarder l'âge de la retraite ? J'en ai personnellement la conviction. Tous nos voisins le font. Ce sont des sujets très désagréables, mais qu'il faut mettre sur la table. Si le fait de mettre sur la table ces sujets dans un paquet, voilà ce qu'il nous faut faire. Et voilà les garanties que nous obtiendrons sur la santé, sur l'éducation, sur nos retraites. Je pense que les Français comprendront la nature de l'effort qu'on leur demande. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment d'un puits sans fond. On fait des efforts, on ne voit pas les résultats et on ne comprend pas le sens et la direction du travail que l'on fournit.
Donc
je pense qu'il faut un véritable pacte, il faut un engagement de l'État, un engagement de l'entreprise, un engagement des salariés, et clairement indiquer le chemin, la direction qui est menée.
Oui, j'ai deux questions, toujours sur la conjoncture française. Est-ce que vous estimez que les difficultés actuelles de l'économie française sont dues au paquet fiscal mis en place par Nicolas Sarkozy et son gouvernement, ou bien à un contexte international qui est extrêmement délabré, puisque la France n'est pas encore en récession, mais au ralentissement économique fort? Et si vous étiez encore à Matignon, est-ce que vous auriez annoncé la rigueur ou la relance budgétaire?
Alors, je pense que c'est un mauvais procès que de dire que le paquet fiscal est la cause des difficultés actuelles. Ce qui est vrai, c'est que ce paquet fiscal a limité, pour ne pas dire réduit considérablement, nos marges de manœuvre sur le plan financier. Est-ce que...
Donc c'est une erreur de l'avoir fait.
Non. Est-ce que, sur le plan du symbole, sur le plan de l'action politique, c'était le message qu'il fallait adresser au lendemain de l'élection? Je pense que dès lors que nous pouvions anticiper une forte baisse de la croissance, il eût mieux valu adresser un message de justice sociale, tout simplement pour rassembler les Français. Je suis obsédé par l'idée que dans un temps difficile, c'est l'idée de rassemblement qui doit être au cœur.
C'est une erreur de l'avoir fait, mais vous le dites pas, mais
à ce moment-là, le gouvernement pensait que la croissance allait se développer et repartir, et il a pensé qu'il fallait libérer
des énergies. Les experts disent que sans ce paquet fiscal, le choc actuel sur l'économie française aurait été pire.
Mais c'est pour ça que je crois que c'est un mauvais procès. Je dis simplement que sur le plan du symbole aujourd'hui, il faut privilégier tout ce qui peut nous rassembler, et que nous avons besoin de poser clairement cette exigence de justice sociale si nous voulons avancer. Je crois que c'est une priorité.
C'est la troisième fois que vous nous parlez du rassemblement, c'est quelque chose de fort pour vous. Ça veut dire un rassemblement politique? Ça veut dire élargir la majorité? Ou simplement...
Ce n'est pas pour moi la priorité, même s'il peut y avoir une traduction politique à cette idée de rassemblement et de réconciliation. Je crois que l'essentiel, c'est que tous les Français comprennent où on va, que tous les Français partagent la conviction que ce qui est fait est nécessaire et qu'ils avancent ensemble. Alors après, on peut...
Ça, c'est pas possible, dans une démocratie, tous les Français comprennent pas.
Chacun
a son avis sur la question.
Oui, sauf que... un certain nombre de nos voisins arrivent à déterminer des consensus beaucoup plus forts que les nôtres, moyennant quoi ils arrivent à faire des réformes plus importantes que les nôtres et plus efficaces. Je crois que si on prend la mesure des difficultés, et si on s'entend sur l'essentiel, parce que les réformes structurelles doivent être faites, c'est là l'essentiel. Alors après, on peut pinailler sur telle et telle mesure.
Rigueur et relance, vous avez fait quoi?
Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, la question ne se pose pas en ces termes, puisque nous savons que les marges de manœuvre sur le plan financier n'existent pas. Donc la relance est extrêmement difficile à imaginer. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut être rigoureux, exigeant dans notre approche de la dépense publique, et que les efforts qui sont faits doivent être faits. Alors après, on peut discuter sur les modalités, on peut engager un débat politique sur la nature des mesures qui doivent être prises, sur la carte scolaire, la carte hospitalière, mais sur le principe de la réforme, sur la nécessité de réduire la dépense publique, je crois qu'il y a là quelque chose d'incontestable et que le président de la République et le gouvernement ont raison de s'engager dans cette direction.
Pour reprendre le constat d'Étienne Moujotte, vous parlez beaucoup de rassemblement. Pensez-vous que la personnalité et la manière de gouverner de Nicolas Sarkozy sont un obstacle à la largeur du rassemblement que vous évoquez ?
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je crois que il y a beaucoup d'espoirs qui ont été mis en Nicolas Sarkozy à l'occasion de son élection et qu'il est évidemment toujours très difficile de garder ce momentum, cet esprit de rassemblement. D'où la nécessité en permanence d'expliquer la politique et de lui donner une traduction, une visibilité. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites nécessaires, beaucoup de choses sont faites qui ont besoin néanmoins d'être clarifiées pour les Français, d'être incarnées pour les Français. Donc je crois que c'est davantage dans le sens de l'explication, voire dans le sens de la contrepartie. Je disais tout à l'heure qu'il fallait apporter des garanties aux Français. Je crois que confusément, les Français sentent qu'il y a une difficulté beaucoup plus grande, parfois, que celle qu'on leur dit, mais qu'ils ne voient pas clairement comment on va régler une série de problèmes. Mais ils sont conscients des problèmes de la sécurité sociale, ils voient bien la nature du déficit, et donc ils s'inquiètent sur les promesses qu'on leur fait, ils se demandent si on pourra les tenir.
L'année dernière, à cette période-ci, à la rentrée, vous mettiez en cause la manière même de gouverner. Vous avez dit ceci, je vous cite, c'était le 5 septembre, la Cour, vous dénonciez la Cour autour de Nicolas Sarkozy, c'est cette incapacité à se remplir de l'objectif, donc par hypothèse de le rassemblement, pour exprimer le contentement permanent de celui qui le fait et pour le mettre en scène. C'est une critique qui vaut encore aujourd'hui, d'après vous, Dominique de Villepin ?
Ah, c'est une critique qui vaut beaucoup moins qu'à l'époque où je l'ai émise. Tout simplement parce que je pense que l'expérience, l'apprentissage et l'exercice de haute fonction s'accompagnent aussi d'un exercice de lucidité, voire de confrontation aux difficultés qui amènent à remettre en cause la manière de faire les choses.
Nicolas Sarkozy a changé à la tête de l'État.
Je pense que dans la démarche qui est la sienne, il y a aujourd'hui une simplicité, un dépouillement qui n'existait pas il y a 6 ou 8 mois. Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a des leçons qui ont été tirées. Ce qui est vrai néanmoins dans l'esprit de cour dans notre pays, qui est malheureusement un travers très français, c'est qu'il accompagne tout pouvoir. Il tend à se reconstituer. Et je pense que la seule protection que l'on a vis-à-vis de l'esprit de cour, c'est en permanence de s'entourer de gens différents, capables d'exprimer des opinions fortes et non pas uniquement soucieux de plaire et de complaire. Je crois que à partir du moment où on pose cette exigence, toute l'histoire napoléonienne le montre, privilégier des gens différents au caractère fort, eh bien on a davantage de chances d'avancer.
Toute petite précision sur la pédagogie. Pour revenir à votre expérience de Premier ministre, vous avez fait l'expérience du CPE. C'était probablement une bonne réforme. Est-ce que ça n'est pas simplement parce qu'il y avait une insuffisance d'explication et de pédagogie?
Vous prenez l'exemple du CPE qui n'est pas, à mon avis, un bon exemple. Parce que,
C'est
un exemple. Le CPE a d'abord souffert de divisions internes de notre majorité de l'époque et d'une absence de soutien du MEDEF. Dans un autre contexte, davantage d'unité des forces, peut-être à plus grande distance d'une élection présidentielle, notre majorité, l'ensemble de ceux qui comprenaient la nature et l'esprit de cette réforme, se seraient peut-être davantage mobilisés. Néanmoins, c'est vrai que il arrive que des réformes soient opportunes dans certaines circonstances et qu'au contraire elles soient rejetées dans d'autres. Donc c'est vrai que le choix du moment est essentiel. C'est pour cela que depuis plusieurs mois je dis il est essentiel de se concentrer sur les réformes les plus importantes plutôt que se disperser tous azimuts dans des réformes d'inégale importance. Pour moi, aujourd'hui...
Qu'est-ce que c'est les réformes importantes qui sont menées,
cible,
qui sont menées? Non, celles qui...
Alors,
je comprends bien que vos souhaits sont différents de ce qui est fait.
Toutes celles qui sont menées dans le domaine économique et social. Et la réforme de l'État. Réforme de l'État, réforme économique et réforme sociale.
35 heures et suppression de postes fonctionnaires, par exemple, c'est bien.
Je pense que tout cela est essentiel.
Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Alors, qu'est-ce qui sont les réformes subalternes?
Je prends un exemple où j'avais une opposition de principe, qui est la réforme de la Constitution. Même si cette réforme peut nous apporter une amélioration des choses dans la vie parlementaire, dans un meilleur contrôle du Parlement. J'estime pour ma part que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la réforme économique et sociale. Nous sommes dans un temps où il faut passer un cap extrêmement difficile, aller beaucoup plus loin. Je prends une bonne réforme. La réforme des universités. Valérie Pécresse a très bien mené son affaire, mais il nous faut aller beaucoup plus loin. Nous ne pouvons pas attendre 10 ans avant d'avoir des universités performantes. On a augmenté les crédits pour la refonte des bâtiments. Il faut accélérer l'autonomie, accélérer les nouvelles modalités de financement. Tout ceci demande beaucoup d'énergie. On ne peut pas, c'est ma conviction, tout faire en même temps.
Toutes choses qui n'ont jamais été faites pendant, par exemple, le quinquennat de Jacques Chirac. L'université est malade depuis longtemps.
Toutes choses qui ont été.
On ne peut pas dire que quand vous étiez au gouvernement, des choses ont été faites.
Tout le lien entre l'université et l'emploi.
C'est un peu pousse au crime aujourd'hui.
Non, toutes les avancées, essayez d'être un peu plus clair, pousse au crime en quoi
Par exemple, quand vous parlez de l'université, vous dites le financement, donc je pense qu'on peut supposer la sélection, la sélection des étudiants, l'augmentation des droits à l'entrée, c'est-à-dire une véritable autonomie des universités, ce dont nous sommes considérablement loin, parce que un ministre qui essaie de le faire, en général, il ne reste pas longtemps en poste.
Monsieur Paty,
c'est par là que je suggère que vous êtes pousse au crime.
Oui, pousse au crime, pourquoi ? Et pas du tout au crime, au contraire, à la vertu. Pousse à la vertu. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation d'exception. La crise auquel nous sommes confrontés, la crise de compétitivité française, regardez nos exportations. Nous avons des exportations qui, aujourd'hui, souffrent considérablement. Et nous avons un voisin, l'Allemagne, qui multiplie les percées dans ce domaine. Ça montre bien que notre avance technologique, nos produits, ne sont pas aussi compétitifs.
Non, ça montre que pendant des années, les gouvernements français n'ont pas eu de politique économique en direction de la Chine et n'ont pas pris les parts de marché que
Monsieur
les ont pris.
Ça montre que sur le plan de nos produits, nous n'avons pas toujours les meilleurs produits, les plus performants, nous mettant à l'abri de la concurrence, notamment, vous avez raison, de la Chine.
Monsieur de Villepin,
donc, ça veut dire qu'il faut mener une politique d'innovation beaucoup plus agressive, réfléchir aujourd'hui aux secteurs stratégiques dans lesquels nous voulons avancer. Je prends un exemple, le solaire. Il est évident que le monde de demain verra une formidable percée de l'énergie solaire ou l'énergie électrique, les voitures électriques. Faisons en sorte d'être concurrents, sans quoi nous allons mettre en place des dispositifs nécessaires, la fiscalité verte, l'encouragement à toute une série d'avancées dans le domaine de l'environnement, mais les produits qui seront sur le marché ne seront pas des produits français et nous financerons alors des produits chinois. Je crois que dans ce domaine, il faut faire un travail de fond indispensable pour doter la France de spécialités stratégiques et technologiques de premier plan, comme nous en avons, c'est le cas de l'aéronautique, c'est le cas de l'énergie, nous avons des atouts considérables, mais renforçons cette capacité. Et prenons la mesure d'une des faiblesses françaises. Nos moyennes entreprises n'exportent pas assez parce qu'elles sont trop petites. Nous n'avons pas dans la catégorie des 500 000 salariés des entreprises suffisamment performantes pour être capables d'avancer à l'exportation.
Ça doit faire à peu près un siècle et demi qu'on le dit quand même, que les PME françaises sont trop petites.
Quand vous êtes au bord du précipice, il est plus important et plus facile sans doute de prendre les bonnes décisions, tout simplement parce qu'elles sont nécessaires et qu'on ne peut plus avancer sans les prendre.
Mais est-ce qu'on peut revenir, monsieur le Premier ministre, à l'essentiel ? Nos grandes entreprises, dans l'ensemble, réussissent très bien à l'étranger. Il y a un problème, c'est qu'effectivement, elles ont des charges totalement excessives. Commençons par baisser les charges des entreprises et vous verrez que ça ira mieux.
Vous êtes d'accord ?
Je vous ai dit, monsieur Mougeot, qu'il fallait faire une réforme du financement de la protection sociale. Donc je partage tout à fait votre avis. Sur les cotisations patronales, faisons en sorte de les adosser à autre chose que les entreprises, de façon à ne pas pénaliser l'emploi, la compétitivité et le pouvoir d'achat des salariés.
Nous terminons sur ce propos de rassemblement et on se retrouve après les informations. À tout de suite.